Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Wendel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec le musicien Eric Serra, musicien et compositeur pour les ciné-concerts du Grand Bleu, bientôt retransmis à travers toute la France avec un groupe en live. Hélène Manarino va nous dresser le portrait inattendu d'Eric Serra dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, un spectacle d'humour et un film adapté de DC Comics. Et pour une fois, c'est une histoire de fille. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Wendel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture qui débute avec une actualité tragique, la mort du célèbre acteur Kirk Douglas.
Pour Le Monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, mais pour moi et mes frères, il était simplement papa. Les mots de Michael Douglas cette nuit pour annoncer la disparition de son père. Kirk Douglas, légende du cinéma américain, s'est éteint à l'âge de 103 ans. Une centaine de films dans sa filmographie, on peut citer 20 000 lieues sous les mers, Les Sentiers de la Gloire ou encore Spartacus de Stanley Kubrick. Et il avait même fait un one-man show en 2009 à Los Angeles. Kirk Douglas avait reçu un Oscar d'honneur en 1995. D'ailleurs, les Oscars ont lieu dimanche soir. Un hommage lui sera rendu. Ce matin, dans la matinale de Mathieu Béliard, la chronique culture de Jean-Philippe Ballas lui a été consacrée avec des archives Europe 1 et un Kirk Douglas qui parle français à retrouver sur europe1.fr.
Ah, c'est excellent. J'ai entendu ce matin, ils ont passé un extrait. C'est Eddie Mitchell studio qui fait chanter Kirk Douglas. C'est vraiment savoureux. Je conseille à tout le monde d'aller réécouter ce moment de radio. On va continuer ce journal avec le festival Solidays. La billetterie ouvre aujourd'hui.
Et oui, ça y est, à midi plus exactement. Alors attention, vous aurez seulement 5 minutes pour confirmer vos places. Donc il faut être très réactif. Ouais. 25 000 passes, 3 jours à partir de 39€. Le festival Solidays se déroulera du 19 au 21 juin à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Alors certains noms ont été dévoilés. M, Aya Nakamura, Vidéo Club et des nouveaux noms s'ajoutent, évidemment, comme Métronomie.
Vous en foutez, mais j'adore Métronomie.
Ah, ouais. Mais on s'en fout.
Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit, Hélène. Toujours un mot gentil. Vous imaginez pas l'élégance de cette personne, amis auditeurs et auditrices.
Je m'y attendais tendu une perche.
Mais évidemment, il faut y aller.
Alors, autre groupe sur lequel vous avez forcément dansé, Philippe, j'en suis sûr.
Non, pas du tout.
Les Black Eyed Peas. Ouais. Oui, j'aime beaucoup moi les Black Eyed Peas.
Alors,
un partout. Luc Barruet, le fondateur de l'association Solidarité Sida et de Solidays, nous explique en quoi consiste ce festival au micro d'Alexandre Omar.
Concrètement, Solidays, c'est un site de 16 hectares avec 9 aides, avec 70 restaurants, avec une centaine d'associations du monde entier, toutes causes. On parle de sida, mais on parle aussi de droits humains, on parle d'environnement, on parle de personnes âgées isolées à domicile. Voilà. Il y a des talks, des conférences, de personnes inspirantes qui viennent partager. Et puis, tout ça fonctionne avec 3000 bénévoles, donc répartis dans 57 équipes qui vous accueillent, qui animent les navettes, qui gèrent le camping. Voilà. C'est d'abord une ville qu'on crée éphémère, dans laquelle j'ai le sentiment que ce qui domine, c'est la bienveillance et l'ouverture aux autres.
La programmation sera bouclée au mois d'avril. Alors, des têtes d'affiches, oui, mais pas que.
Souvent, les gens attendent les noms des têtes d'affiches pour acheter leurs billets. Je crois que la richesse d'un festival, c'est d'aller découvrir en début d'après-midi des artistes qu'on ne connaît pas sous des petits chapiteaux. Parce que aller écouter un artiste qu'on adore déjà, c'est bien, mais aller découvrir un artiste qu'on va écouter en boucle dans les 3 prochaines semaines, je pense que c'est la véritable richesse d'un festival de musique. Donc il faut aller chiner la musique, découvrir des choses qu'on ne connaît pas et se laisser porter et faire confiance aux programmateurs.
Alors pour aller chiner la musique, passer 3 jours dans la bienveillance et la solidarité, rendez-vous au Festival Solidays du 19 au 21 juin prochain.
Et le 21 juin sera le final de la fête de la musique, c'est parfait. On quitte la musique, on va partir du côté des musées Nikos Aliagas, parrain de la nouvelle campagne de mécénat du Louvre.
Cette campagne s'intitule Mission Apollon. Le principe, faire appel au public, à son porte-monnaie, pour aider le musée à acquérir des œuvres en vente sur le marché, mais classées trésors nationaux. Et il y a une œuvre que le musée Olivier souhaite acquérir, c'est un Apollon Citarède, une pièce de 68 cm de haut en bronze. Alors, estimé à 6,7 millions d'euros, il manque 800 000 euros pour boucler l'opération.
Ah oui. Et ils ont demandé à Nikos.
Nikos, écoutez bien, Nikos Aliagas a été en charge de photographier cet Apollon et ses photos ont été mises en vente hier au profit de cette acquisition, des photos dédicacées avec un certificat d'authenticité.
Retour au cinéma, on parlait de Taïwan, le coronavirus qui a des répercussions sur le cinéma chinois.
Les associations de producteurs, d'acteurs de Chine ont publié un communiqué demandant à tous les professionnels du milieu d'interrompre les tournages de films jusqu'à nouvel ordre. Les professionnels qui n'appliqueraient pas ces différentes directives seront tenus responsables. Ils appellent les acteurs à dénoncer ceux qui refusent aux autorités locales. Vanguard de Jackie Chan a été repoussé à une date ultérieure. On a appris aussi que la cérémonie des Oscars, qui a lieu donc dimanche soir, ne serait pas couverte en Chine. Je rappelle que le coronavirus a provoqué la mort de 490 personnes et a infecté plus de 24 000 individus.
Et on termine ce journal avec l'actrice Adèle Haenel. Elle rayonne désormais à l'international.
L'actrice aurait signé un contrat avec l'une des plus grosses agences d'agents aux États-Unis, l'agence CAA, comme le révèle le site Deadline. Elle est donc représentée des deux côtés de l'Atlantique. Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma, dans lequel elle tient l'un des rôles principaux, a rencontré un très beau succès à l'étranger. Il a été nommé aux Golden Globes et au BAFTA 2020 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Je rappelle qu'Adèle Haenel est nommée dans la catégorie meilleure actrice au César.
Merci beaucoup Hélène Manarino, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravi d'accueillir Eric Serra.
Bonjour Eric Serra.
Bonjour.
Vous êtes musicien Eric Serra, compositeur, et on vous doit ceci. En une seconde, je me permets de parler dessus. En une seconde, on reconnaît le thème, la musique du Grand Bleu. C'est absolument dingue, non mais c'est donné à très peu.
C'est grâce à la voix de ma baleine.
Ouais. C'est une copine à vous ?
C'est sa voix qu'on reconnaît.
C'est une vraie baleine ?
Oui, bien sûr.
C'est un sample de baleine que vous avez fait ?
Oui, oui, je serai sur scène avec mes baleines.
Ouais, on va raconter ça. La place que ça prend, vous n'êtes pas qu'un aquarium. Je veux dire que cette musique date d'il y a 30 ans, en même temps que le film de Luc Besson, et c'est toujours d'actualité. Non seulement la BO du Grand Bleu figure au top 25 des meilleures ventes d'albums de tous les temps en France, mais surtout, vous allez partir en tournée avec ce film et une baleine. Expliquez-nous.
Oui, en fait, on fait une tournée de ciné-concert, c'est-à-dire on a pris le film, on vous projette le film sur un grand écran de 18 mètres, je crois.
Ouais.
Le film avec les dialogues, les bruitages et tout, on a juste enlevé la musique.
Ouais.
Et nous, au pied de l'écran, je suis avec un groupe que j'ai formé spécialement pour cet événement et on vous joue la musique du film en direct, synchronisée à l'image près comme dans l'original, avec les sons d'origine et note pour note comme la musique du film. Ouais.
J'allais vous demander ça, vous jouez avec quels instruments ? Vous jouez avec les synthés de l'époque ?
Oui, oui, enfin alors...
Ou vous avez refabriqué le son de l'époque ?
On a refabriqué le son parce que il me restait la plupart des synthés de l'époque,
ouais,
mais on les a échantillonnés pour ne pas partir avec les machines elles-mêmes en tournée, parce que c'est des machines un peu trop fragiles pour ouais, prendre ce risque. Mais aujourd'hui, il y a du matériel qui permettait de faire ça, c'est-à-dire qu'on a récolté tous les sons où on les a recréés et on part en tournée avec des machines plus modernes, disons.
On va entendre ce que ça donne, c'est assez saisissant. Je précise aux auditeurs que ce qu'on va vous diffuser, c'est pas un disque, mais un live, c'est une captation. Alors ça fonctionne, vous l'avez dit, en parfaite synchro avec le film. C'est-à-dire que le coup de cymbale tombe au moment où le dauphin plonge. Comment vous faites pour vous caler à la seconde près ? En fait, tout va être flottant. Il se la pète maintenant, mais ça va être n'importe quoi.
Non, non, en fait, un des premiers trucs que j'ai fait, j'ai programmé un clic, ouais, c'est-à-dire un métronome, vous
ouais,
savez, un truc
bien
qui
sûr
fait tac, 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 du début à la fin du film, qui suit toute la musique du film. Mmh. Donc avant d'enlever la musique du film, j'ai programmé ce clic, donc avec toutes les fluctuations de tempo que ça demande.
Ouais.
Et donc pendant 2 heures, on a un clic qui tourne et qui suit la musique originale. Du coup, nous maintenant, Nous, on a ce clic dans les oreilles quand on est sur scène. Pas vous, heureusement.
Ouais.
Et nous, il nous suffit de jouer la partition en suivant ce clic. Et du coup, on est synchronisé à l'image près, comme l'original.
Alors, les spectateurs, évidemment, voient le film et le groupe sur scène. C'est-à-dire qu'au premier plan, sur l'estrade, on voit il y a le groupe qui joue. Et au-dessus, il y a le film projeté. Mais vous-même, est-ce que vous voyez le film? Est-ce que vous avez des écrans de contrôle ou pas du tout?
Ouais, on a des moniteurs de contrôle. Pour, comme ça, pour savoir où on en est. Puis pour l'inspiration de l'émotion. Mais en réalité, on pourrait s'en passer, puisqu'on suit le clic surtout.
Je vous pose la question que je me suis toujours posée. Je ne savais pas si cette baleine était une vraie baleine ou un sample que vous avez, un son synthétique que vous avez refabriqué. Elle vient d'où? C'était qui cette baleine? Où vous l'avez chopée?
Non, en fait, c'est un son purement synthétique.
Quel escroc, vous venez de nous dire l'inverse il y a 3 minutes, Eric Serra. Sortez de ce studio. Alors attendez, c'est un son synthétique qui imite la baleine.
En fait, il est inspiré des chants de baleine.
Ouais.
Mais il cherche même pas à l'imiter, c'est pas hyper réaliste du tout. Hein, parce qu'à l'époque, j'aurais pu effectivement sampler, puisque les sampleurs existaient déjà. C'était le tout début, mais ça existait.
C'était ma question, on dirait que c'est ni une vraie, ni une fausse.
Mais c'est une fausse.
On peut le rentendre d'une seconde avant qu'on quitte Eric Serra. Voilà. Après nous avoir dit que c'était une vraie, maintenant il nous dit que c'est une fausse. Et maintenant, on va enchaîner avec ça, Céline Dacosta.
Allez,
on était sur les baleines.
On y va. Eric Serra est notre invité. Vous dites ça pour moi, la baleine?
Comment ça se passe?
Non, mais pour moi, vous allez lancer mon portrait. Donc
voilà. Eric Serra est notre invité dans Culture Média. Et dans un instant, Eric Serra, on va plonger dans votre vie grâce à Hélène Manarino qui va nous dresser, vous l'avez compris, votre portrait inattendu sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
On se demande toujours si elle est vraie ou si elle est synthétique, Hélène Manarino. Bonjour.
Elle est vraie.
Vous la connaissiez ou pas?
Je n'ai pas cette chance.
Voilà. Et en revanche, elle a réussi.
Je la connais maintenant.
Elle a réussi à synthétiser votre vie, Eric Serra.
Quel lancement, merci Philippe. Bonjour Eric Serra.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Eric, déjà nous sommes ravis de vous voir ce matin, puisque le matin, c'est votre plus grande histoire d'amour.
Ah oui.
Comment avez-vous fait pour être là? Ouais. C'est un effort surhumain.
Il a appelé Pierre Palmade.
C'est vrai, c'est un gros effort. Mais oui, parce que je me couche très tard, donc je suis en jet lag permanent.
Alors, il y a deux raisons pour vous lever. C'est la promo, mais aussi pour accompagner votre fille à ses compétitions de gym. Alors, quand vous savez que vous allez vous lever tôt, c'est-à-dire avant midi, vous ne dormez pas de la nuit. Cela vous stresse, donc vous êtes encore plus fatigué. Heureusement que vous ne dormez pas ici, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Et ça, une fenêtre que vous pouvez ouvrir, et ça, c'est votre condition. Dans un hôtel, vous ne demandez pas de champagne, de bonbons, de nourriture particulière. Non, il vous faut juste une fenêtre qui puisse s'ouvrir. Voilà, besoin de respirer. Vous dormez même la fenêtre ouverte quand il fait très froid dehors.
Alors, même au ski,
Et même en avion?
Comment vous faites en avion pour dormir?
Si, quand c'est moi qui pilote, oui.
Alors, on va vous détendre. Ce qu'il vous faut, c'est le bruit de la mer, être au bord de l'eau, une maison au bord de l'eau, votre rêve ultime. Alors, pour vous réveiller, Eric Serra, fermez les yeux, mais pensez à les ouvrir après. C'est un petit cadeau pour vous détendre. Alors, un lève-tard, oui, donc vous ne connaissez pas le déjeuner. Vous n'avez jamais déjeuné, vous n'aimez pas ça. L'idée même de le faire vous angoisse. Pour votre petit déjeuner que vous prenez donc à 12h30, souvent, il vous faut un cake, toujours le même.
C'est vrai?
Non, ça c'est un peu exagéré. Bon, enfin, je vois d'où viennent toutes ces informations.
Non, mais on s'en fout d'où ça vient. On veut savoir si c'est vrai.
Mais si, un cake.
Quand vous partez en tournée, vous pouvez aller dans un magasin pour acheter des petits marbrés, pour en avoir le lendemain à l'hôtel, alors qu'un petit déjeuner haut de gamme est prévu. Quand même, vous l'avez fait, ça, Eric Serra.
Non, ça c'est pas vrai. Les petits marbrés, c'est pas mon genre.
Non, mais un petit cake. Un petit déjeuner que vous prenez parfois chez vous, devant ça.
C'est quoi ce générique, Eric Serra?
Ça, j'ai honte.
C'est les
12 coups de midi.
Cela vous détend, voilà.
Une émission que vous aimez bien.
J'ai honte, mais j'aime bien.
Non, mais attendez, le pire, c'est quand on va dire que c'est vous qui avez fait la musique du générique.
Non, mais c'est un compositeur que je connais.
C'est pas vrai.
Je crois que c'est Jean-Michel Bernard.
D'accord.
Ouais. Alors, parfois, une petite Corona peut vous accompagner, bon, même si votre petit déjeuner est tard, ça marche, voilà. Alors, Eric Serra, une vie tardive organisée, mais pas seulement dans les horaires. Je crois que c'est la première fois dans le portrait inattendu que je vais dire cette phrase à un invité masculin. Vous êtes extrêmement organisé. Vous notez tout, partout, sur des post-it. Vous savez où les choses se trouvent et c'est très rare pour être souligné. Alors pour travailler, vous avez aussi certaines conditions. Dès qu'il y a un nouveau projet, vous avez un rituel. Vous réaménagez systématiquement votre studio comme un nouveau départ. Votre studio, enfin votre vaisseau, comme vous le nommez. Quand quelqu'un arrive, vous dites « Bienvenue à bord ». Un vaisseau dans lequel vous êtes très exigeant. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un petit détail qui ne vous empêche pas de travailler, vous arrêtez tout. Passionné par l'univers de Star Trek, vous donnez même à vos collaborateurs des petits surnoms qui collent à cet univers, comme Miss Marple, par exemple, votre ancienne assistante. Alors, votre vaisseau à vous, vous l'avez construit aussi dans le restaurant de votre père, un restaurant près de Le Cat où toutes les stars venaient pour écouter les chansons flash de votre père. Vous savez, des chansons qui durent juste 15 secondes. Vous avez toujours les 45 tours, des stars qui venaient aussi pour signer le livre d'or. Et puis, c'était surtout le vaisseau d'un artiste. Quand on ne savait pas où il était dans le restaurant de votre papa, c'est Monsieur Jacques Brel.
Ah oui ?
Ouais, c'était le meilleur ami de mon père quand j'étais tout petit, quoi. Donc, je l'ai connu moi comme si c'était quelqu'un de la famille, quoi.
Vous étiez déjà dans le grand bain de la grande vie, une vie marquée par toutes les fêtes organisées aussi chez vous, à Montmartre, par un séjour à Dakar où vous aviez décidé de faire un gâteau avec de la marijuana. Votre père était tellement heureux de voir un gâteau réalisé par vos soins qu'il en a pris un bout sans connaître les ingrédients. Et il a été malade toute la nuit.
Non. Alors premièrement, c'est pas vrai. Il connaissait les ingrédients, il savait ce que c'était, mais il voulait essayer.
Ouais.
Et c'était particulièrement violent. Ouais. Donc ça c'est pas très bien.
Il vous en reste ? Hélène.
Alors une grande vie aussi marquée par votre rencontre avec Jacques Higelin qui vous demande la veille d'un de ses concerts d'apprendre tout son répertoire pour jouer avec lui presque tout son répertoire. Vous bossez non-stop toute la nuit et le lendemain sur scène vous jouez un seul morceau. Alors Eric Serra, rien ne vous arrête. Plongeur, apnéiste, le grand bleu c'est vous finalement. Pilote d'avion aussi, vous avez la licence. Alors il vous reste un autre rêve que vous avez déjà touché du doigt dans Subway, être acteur. On vous compare souvent physiquement à Al Pacino. Une expérience que vous avez envie de réitérer. Alors, homme de la nuit, on vous souhaite que ce rêve puisse voir le jour.
Merci beaucoup, Hélène. Vous êtes reconnue dans ce portrait ?
Ah, j'ai reconnu quelques trucs. Oui. Ouais. Bon, il y a quelques trucs qui sont un peu déformés quand même.
Ah non, je dois c'est dire. Pas le but du portrait inattendu.
Et pendant qu'Hélène parlait, il y a une copine à vous qui nous a appelés.
La vraie.
Ah oui, ça c'est une vraie.
Ouais.
Eric Serra est notre invité avec lui dans un instant. On découvrira nos indispensables du jour. On va parler comics avec Clément Le Saffre et on va parler également d'un humoriste, David Duclos, avec Louise Bernard. Tout ça c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et ce matin, Philippe Bondel, Louise Bernard nous a rejoint pour nos indispensables du jour. On va parler du spectacle de David Duclos dans un instant. On parlera également comics avec Clément Le Saffre. Tout ça avec notre invité, Eric Serra, musicien-compositeur, qui va partir en tournée avec les ciné-concerts du Grand Bleu.
Tiens, je vais te donner les dates de la tournée. Énorme tournée, donc j'explique. Il y aura un groupe en live qui va jouer la musique du Grand Bleu pendant que sur l'écran, vous verrez le film avec le dialogue et les bruitages. Ça va se passer pendant tout le mois de mars dans toutes les très grandes salles des très grandes villes françaises. Ça commence à Amiens le 4 mars. Ensuite, il y aura Brest, Caen, Rouen, Lille, Metz, Dijon, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice. Ça, c'est de la tournée et c'est pas fini. Montpellier, Clermont-Ferrand, Nantes, Paris, ce sera le 22 mars. Toulouse, Bordeaux, Chambéry, Genève, Bruxelles, le 31 mars. Genève, le 30. Il y a même la Suisse et la Belgique. Bravo, quelle tournée. Ça a changé votre vie, cette bande originale du Grand Bleu?
Bah, bien sûr, oui. Ce film a changé nos vies. Luc Besson, Jean Reno, Jean-Marc Barr, Rosanna Arquette, moi, ça a changé nos vies parce que ça a fait un tel succès. ça a dépassé, si vous voulez, les succès. On a eu la chance d'avoir plusieurs gros succès, mais celui-ci, c'était...
Quand vous faisiez la musique, est-ce que vous sentiez que vous faisiez un truc incroyable ou pas du tout?
Non.
Non. Ça vous fait marrer.
Ben ouais, non, parce, ben non je, bien sûr que non, on le sentait pas.
À la base, Luc Besson voulait une bande originale avec un orchestre symphonique. Pourquoi vous avez changé d'avis finalement? Parce que c'était trop cher ou pour une autre raison?
Ah non, non, c'est lui qui a changé d'avis. Il voulait au départ une musique symphonique parce que nous, on était fans de Spielberg et George Lucas, donc musique de John Williams. Et moi qui suis 100% autodidacte, quand Luc m'a dit ça, je me suis du coup plongé dans la musique symphonique. J'ai fait que ça pendant 2 ans, écouter ça 3 heures par jour au casque, les yeux fermés. Enfin bref, pour essayer de faire mon auto-éducation en symphonique, pour être capable de le faire. Et puis au bout de 2 ans, un jour, Luc vient me voir, il me dit « Tu sais, j'ai réfléchi finalement, on va pas faire une musique symphonique parce que c'est pas notre culture. On va faire plutôt la musique qu'on écoute, quoi, ce qu'on aime, nous. » Et donc, j'ai un peu avalé de travers. Ouais. Oui, c'est pas ta culture peut-être, mais maintenant ça commence à être la mienne. En même temps, j'étais un peu quand même soulagé parce que ça me paraissait quand même plus simple d'écrire de la musique que j'avais l'habitude d'écouter depuis plus longtemps.
Disons. Et alors, quand vous parliez de Luc Besson, quand on regarde votre biographie, on constate que vous n'avez quasiment travaillé que pour lui, que pour ses films. On va entendre un florilège de vos compositions. Je vais les citer dans l'ordre. Les bandes originales des films Nikita, Léon, Jeanne d'Arc et Le Cinquième Élément. Vous aimez bien réentendre votre musique, vous êtes comme certains artistes, vous n'entendez que les défauts. Vous vous dites, mince, là j'aurais dû faire ça ou ça, ou tiens.
Ouais, bien sûr.
Là, vous entendez quoi comme défaut? Qu'est-ce qui vous a fait sourire?
La chanteuse, on dirait une vraie. Hein.
On dirait Uma Sumac. C'est qui?
Non, c'est une vraie chanteuse en fait. C'est Inva Moula, ouais. Qui est une vraie chanteuse d'opéra. Mais que j'avais quand même un peu trafiqué avec des ordinateurs pour lui faire faire des choses...
Ça, j'imagine.
Extraterrestre.
Vous êtes plus capable de faire des choses sans les trafiquer, Eric Serra, non? Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous n'êtes pas trafiqué ce matin, vous nous parlez d'un seul en scène, c'est celui de David Desclos. Desclos ou Desclos?
Desclos.
Desclos, ça s'appelle Écroué de rire.
Oui, alors ce titre, c'est une référence à une partie de sa vie, ses années passées en prison, et c'est ce qu'il a décidé de raconter sur scène, avec humour. Mais je vous préviens tout de suite, il ne fait ni du stand-up ni du one-man show, il se définit plutôt comme un conteur d'histoires vraies, avec des points d'humour et de dérision.
Je m'imagine chez les gens, devant leur cheminée, et que voilà, je leur conte une histoire. C'était comme ça que je voulais le faire, parce que pour moi, c'est beaucoup plus percutant que si j'avais fait une série de blagues, de sketchs. Je voulais vraiment, sous la forme d'un conte, que les gens rentrent dans l'histoire, dès le début jusqu'à la fin. Et ça marche, parce que les gens me disent que le concept, ils adorent.
Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte exactement?
Alors, son histoire personnelle, et ça pourrait être un film. Il explique comment il a creusé un tunnel sous une banque à Caen pour tenter de la cambrioler. Une fois arrêté, comment il est parvenu à s'échapper, puis sa cavale pendant un an, avant de se rendre, mais pas n'importe comment, le jour de son procès, alors que tout le monde pensait qu'il serait absent, puis il revient après sur les 4 années en prison qui ont suivi. Tout est vrai, truffé d'anecdotes, parfois même de conseils. Vous apprendrez par exemple la technique qu'il a utilisée pour enlever ses menottes et échapper aux policiers qui venaient de l'arrêter.
On aimerait bien savoir comment on fait.
Non, je ne dévoile rien, il faut aller voir le spectacle pour la connaître. Mais je vous donne un petit aperçu de ce qui a suivi, c'est la course-poursuite après son évasion.
Je pars en courant. Là, t'as rien qui me course. Arrête-toi. Arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Il était sérieux. Il croyait que j'allais faire demi-tour et dire, bon, allez, je rigolais, vas-y.
Ça vous donne un petit aperçu du ton du spectacle. Je vous fais passer un autre extrait. C'est pendant sa cavale. Il baratine un inconnu pour pouvoir monter dans sa voiture.
J'ai mon petit frère qui jouait sur la grille, là. Il s'est arraché tout le doigt. Ma sœur l'a emmené aux urgences. Ça fait déjà plus de 4 heures, j'ai pas de nouvelles. Vous connaissez la longueur des urgences. Vous pourriez pas m'emmener vers l'hôpital? Le monsieur me regarde, il me fait... Asma Serbi. Et Namanefem, chez le Gaouli. Nadab Arbi, Akhlas. Il me disait en arabe qu'il comprenait pas le français et qu'il parlait que arabe. Je l'ai regardé, je lui ai dit... Khaliniat la felta mobile taïk. Yal al moldek. Les hommes le rachèfent le chouïa à l'hôpital. Rouma Shimler. Il me dit... Nadab Arbi, Inta. Je dis... Nadab Arbi, Ashouya, oui. J'ai oublié de vous dire. Dans les quartiers, on apprend les langues. Essentiellement l'arabe, mais ça sert.
Bon voilà, ça c'est pour la partie un peu humour, c'est tout le début du spectacle. Mais la partie la plus intéressante, c'est quand il décrit ses années en prison. Il parvient à raconter le quotidien derrière les barreaux avec beaucoup de justesse, on s'y croirait. Les co-détenus qui sont plus ou moins fous, et puis le bruit incessant, insupportable. Le CDI qu'on te demande d'avoir pour être libéré un peu plus tôt. Mais comme dit David Desclos, si moi qui suis depuis 4 ans en prison, j'ai un CDI, ceux qui sont dehors au chômage, ils vont vraiment se poser des questions. Et puis il y a la tristesse des familles qui viennent au parloir, qui font la queue, qui sont fouillées. Lui, c'était sa femme Nora, qu'il a attendu pendant 4 ans. Et toute son expérience, il l'a écrite en prison, justement. Et aujourd'hui, il veut qu'elle serve de leçon.
Essayer de montrer à tous les jeunes qui font les imbéciles à quel point nos mères, nos pères, nos enfants, nos femmes souffrent, sont eux aussi dans une prison dorée. Et pour eux, c'est vraiment pas rose. Donc voilà, ce spectacle leur est dédié. Et en 1h20 de spectacle, j'essaye de faire comprendre ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. C'est-à-dire de mettre son culot, son intelligence et son talent dans l'honnêteté. Si les jeunes le faisaient, eh ben, ils déchireront tout. Parce qu'il y a vraiment un gros, gros, gros potentiel dans les quartiers, dans les cités.
D'ailleurs, pour répandre son message au-delà de la scène, il joue son spectacle dans des écoles, des collèges, des lycées, ça c'est pour la prévention, et dans des prisons. C'est retour,
ouais.
C'est ça.
C'est la boucle est bouclée.
C'est ça, la boucle est bouclée. C'est à voir jusqu'à fin avril au théâtre du gymnase Maribel à Paris. Il sera le 23 mars à Saint-Gervais-les-Bains. C'est mis en scène par Stomy Bugsy.
Ah, Stomy Bugsy. Eric Serra, réaction? C'est impressionnant.
Bah c'est étonnant, ouais, ouais, il a l'air passionnant ce monsieur.
Il était également dans le débat de Julien Bugier sur la réinsertion, débat qui a suivi le film de notre invité d'hier, qui a très bien marché d'ailleurs,
parce
c'était Richard
Anconina.
En général, sujet. Quand on vient ici dans cette émission, après ça marche bien pour vous. Donc restez là, Eric Serra.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le musicien et compositeur Eric Serra est notre invité ce matin dans Culture Média. On va revenir à sa riche actualité dans un instant, Philippe. Mais avant, comme promis, on va parler comics avec Clément Le Saffre.
Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors Eric Serra, vous avez composé entre autres la musique de Nikita, Lucie, Le Cinquième Élément, Adèle Blanc-Sec, Jeanne d'Arc. Que des femmes fortes, on pourrait presque dire des super-héroïnes.
Oui, c'est ouais. Vrai. Surtout celle du Cinquième Élément.
Ouais.
Et c'est Jeanne d'Arc aussi.
Voilà.
Et The Lady aussi.
Donc en fait, toutes.
Toutes les femmes sont des super-héroïnes.
Effectivement.
Bien d'accord.
On ne compose pas différemment pour les femmes que pour les hommes. Ou si
Non. Non, c'est juste l'inspiration qui est différente. Mais ça, c'est. À chaque film, de toute façon, l'inspiration est différente.
Voilà.
Et personnellement, non, je ne change pas de méthode, que ce soit une femme, un homme, un animal, un robot.
Ouais. On a déjà vu ce que vous faisiez subir aux baleines. Là maintenant, on va présenter des nouvelles super-héroïnes. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Eric.
Alors
bonjour.
Hier est sorti le film Birds of Prey, film adapté de DC Comics. Mais pour une fois, c'est ni Batman, ni Superman.
Et non, parce que Birds of Prey, c'est une histoire exclusivement pour les filles, entre guillemets, une histoire de filles, il n'y a que des filles au casting. C'est un film centré sur Harley Quinn. Alors Harley Quinn, c'est qui? C'est une anti-héroïne, c'est en fait la petite amie du Joker. Il faut être assez fou, assez folle en l'occurrence pour sortir avec le Joker, le génie du crime
bizarre, hein.
De Gotham. Au début du film, elle le quitte pour s'émanciper et se racheter une conduite parce qu'elle a été traumatisée par cette relation. Et dans sa nouvelle vie, mouvementée, eh bien elle se fait des amis.
Il se trouve que je ne suis pas la seule meuf à Gotham qui a besoin de s'émanciper. Il veut notre peau à toutes. La gamine l'a dépouillé. Toi, tu l'as trahi. Toi, t'as buté son meilleur pote. Alors, si on veut pas toutes mourir dans des souffrances abjectes, faut qu'on se la joue collectif.
D'accord.
Alors, l'équipe en question est donc composée
le son, dis donc.
De Harley Quinn, on l'a dit. Il y a Huntress aussi, il y a Black Canary, il y a René Montoya, c'est une policière, et Cassandra Cain, qui elle est une simple ado.
C'est moi ou c'est une belle bande d'inconnus?
Eh bah, ben complètement. Moi, j'ai découvert l'existence de ce groupe féminin avant, quand la bande-annonce du film est sortie, en fait, alors que je lis énormément de comics, d'histoires de super-héros. En fait, ce sont des héroïnes très secondaires. Ouais, elles sont apparues il y a, pour certaines, 50, 60 ans, mais elles avaient très peu d'histoire. En tout cas, elles apparaissaient dans une case, quoi.
Secondaire, limite tertiaire.
Exactement. Et en fait, donc, pour leur donner un peu de visibilité, elles ont été rassemblées sous l'appellation Birds of Prey, les oiseaux de proie, dans les années 90, dans une série uniquement féminine. Et donc, à l'occasion de la sortie du film, Urban Comics, qui édite les histoires de super-héros en France, a publié des histoires complètes de Harley Quinn, donc Huntress et Black Canary. Je les ai ramenés les trois avec moi. Me suis donc plongé dedans et j'ai adoré cet univers. On peut le voir aux couvertures qui est très, très pop, hein, très moderne. Et ma préférée, bah, c'est elle, c'est Harley Quinn. Elle est complètement cinglée. C'est une ancienne psychiatre, devenue donc complètement barjo après avoir rencontré le Joker, qui ne le serait pas devenu, hein, à sa décharge. Elle se bat avec une énorme masse et elle ne fait pas de quartier, c'est une vraie folle.
Quoi ? Oui, allô, quoi ? Je dois tuer tout le monde et me casser ? Désolée, c'est mes voix. Non, je rigole. Oh, allez, elles n'ont pas vraiment dit ça.
Mais attendez, qu'on comprenne bien, vous nous passez des extraits de films pour parler d'une bande dessinée.
Absolument, parce que les bandes dessinées sont limite plus intéressantes que les films, en fait. Elles sont beaucoup plus fouillées, ça permet de découvrir toute leur histoire. Par exemple, une qui a une histoire assez complexe, c'est Huntress. C'est la fille d'un parrain sicilien. Sa famille a été assassinée quand elle était enfant devant ses yeux. Ouais. Ça crée un léger traumatisme. Donc, elle revêt un costume quand elle grandit. Elle combat le crime organisé avec une arbalète. Elle n'hésite pas à tuer ses ennemis, ce qui change beaucoup, hein, dans le monde des super-héros. Et puis, il y a Black Canary, hyper intéressante aussi. Elle, c'est la punk du groupe. Elle évolue dans un groupe de rock. Elle est chanteuse, donc à ses heures perdues, avec une super voix. Elle possède même un cri surpuissant qui permet de briser le verre et de déstabiliser ses ennemis. Et les trois réunis, eh ben, ça déménage.
Et alors pourquoi il faut lire leurs aventures et ces trois albums que vous avez devant vous, Clément ?
Eh bien parce que le point commun entre toutes ces héroïnes, c'est qu'elles sont résolument féministes. Elles revendiquent toutes leur émancipation loin des carcans très masculins du genre des super-héros. Harley Quinn, par exemple, elle se défait de l'influence toxique du Joker. Huntress cherche à se venger des parrains de la mafia. La mafia, c'est quand même un univers très, très masculin. Mmh. Et Black Canary, elle veut échapper aux hommes qui la contrôlaient dans son passé. Bref, c'est très moderne et c'est le meilleur argument pour s'intéresser aux Birds of Prey, que ce soit le film qui vient de sortir ou les comics, selon François Hercouet, qui est le directeur éditorial d'Urban Comics, qui édite les livres.
Si vous êtes fatigué des héros masculins qui ont réponse à tout et qui sauvent le monde toutes les trois semaines, vous pouvez vous tourner vers ces héroïnes. On a du coup ces modèles de femmes fortes, femmes libres. Au-delà du masque, en fait, il y a un personnage qui a aussi un quotidien avec du coup ses hauts, ses bas. Et oui, on est vraiment au-delà du fait de l'archétype du super-héros. On parle d'héroïne en fait, dans ce cas, que de super-héroïne.
Voilà, et ce féminisme haut en couleur, c'est aussi la patte donc du film Birds of Prey, puisque en plus du casting avec ses cinq héroïnes, donc uniquement des femmes, ouais, il y a donc Margot Robbie, hein, qui incarne Harley Quinn, hein, Margot Robbie qu'on a vu dans Scandale récemment et qui fait sensation en ce moment à Hollywood. Elle est aussi la productrice du film, c'est elle qui a porté cette histoire, qui a voulu l'adapter à tout prix. Donc elle a vraiment tout mis en scène pour ça et elle a choisi une femme comme réalisatrice. Elle s'appelle Cathy Yan, c'est une sino-américaine. Elle avait peu de références, mais elle lui a fait confiance, c'est assez rare à Hollywood et encore plus dans le monde des super-héros. Il y a comme un vent de renouveau avec ce film et avec ces comics qui soufflent dans les capes des super-héros.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. Ça vous parle les super-héros, plutôt les super-héroïnes ?
Oui, mais en même temps, j'ai jamais été très très BD moi personnellement. Bah oui. C'est pas trop mon truc.
Et les films ? Les films de super-héros, c'est votre truc ou pas ?
Oui, j'aime bien ça.
Ouais. Vous en avez un nous recommander ?
En même temps, c'est vrai que passer un extrait de BD à la radio, c'était compliqué.
Ouais. Ça ne va pas échapper. Ouais. Merci Clément et merci pour votre humour.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant et c'est avec notre invité Eric Serra sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média. Ils sont toujours avec nous dans ce studio, hein, Louise Bernard et Clément Le Saffre. Notre invité, évidemment, Eric Serra, qui va partir en tournée avec le ciné-concert du Grand Bleu en France, en Belgique et en Suisse du 4 au 31 mars prochain.
La musique du Grand Bleu de Luc Besson, combien de films vous avez fait pour Luc Besson ? Combien de musiques de films ?
Je crois que...
Tous ?
Non, presque tous. Je crois qu'il a fait 18 films et j'en ai fait 15.
Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez composé la musique d'un James Bond, c'était GoldenEye. Vous en gardez quel souvenir ?
Le souvenir sur le moment... Alors, au moment où on m'a proposé de faire ça, j'étais évidemment super honoré. C'était magnifique. Ouais. Parce que c'était vraiment ma génération, quoi. Ensuite, ça s'est moyennement bien passé avec eux, parce que j'étais pas d'accord avec eux sur certaines décisions artistiques. Mais finalement, avec le recul, maintenant, je suis quand même ravi et très fier de faire partie de la légende James Bond.
Mais vous avez fait du Eric Serra, vous avez fait du James Bond, c'est-à-dire du John Barry, ils vous ont laissé libre. Oui, oui, c'était quoi vos contraintes et vos libertés?
Ah, j'étais totalement libre. Au contraire, il m'avait même demandé de ne pas faire du John Barry. Il voulait vraiment ce que je faisais. Ils adoraient ma musique et ils voulaient complètement rénover le style James Bond. Donc j'avais juste l'obligation d'utiliser le thème 3-4 fois dans le film, mais c'est tout. Quoi.
Ah bah tiens, justement, on va l'entendre. On va entendre James Bond revisité par Eric Serra. On le reconnaît, mais c'est revisité hein, quand même, non? C'est conceptuel.
C'est très revisité.
Hein, vous aviez oublié?
J'avais oublié.
Vous l'aviez pas réécouté? Vous auriez vu la tête d'Eric Serra qui écoutait sa propre musique.
Non, ceci dit, ce morceau particulièrement n'est finalement pas dans le film.
Ah oui?
Il est sur la BO, mais il n'est pas dans le film.
Et la BO, c'est bien vendu?
Oui, très bien. C'est une des deux plus grosses ventes de James Bond de tous les temps. Donc ouais. J'étais content et fier, oui.
Prochain projet?
Prochain projet après, à part la tournée,
ouais.
C'est un album. Je sors un album à la fin de l'année qui est, dont le thème est la vie humaine dans l'espace, enfin l'expérience humaine dans l'espace,
wow.
Inspiré de ma rencontre avec des astronautes. Et, voilà.
Et prochain projet avec Luc Besson, vous le savez déjà?
Non, je ne le sais pas encore.
C'est votre ami depuis plus de 30 ans, pardon de vous poser la question, comment il va?
Ça va.
Parce qu'il y a eu toutes ces accusations de harcèlement sexuel, pour ne pas dire davantage.
Ouais, je sais, ouais.
Ouais. Et vous-même, vous pensez quoi du mouvement MeToo et de la parole qui se libère, notamment dans le cinéma, aux États-Unis et maintenant en France?
C'est un sujet très délicat. Ce que j'en pense, c'est que évidemment qu'il faut que certains abus cessent. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut faire attention. En fait, c'est valable d'ailleurs pour le féminisme en général. C'est ce que je pense du féminisme. C'est que le féminisme, c'est bien à partir du moment où c'est censé effectivement mettre à égalité les hommes et les femmes. Maintenant, si c'est juste pour inverser et mettre les femmes au-dessus des hommes, je ne suis pas forcément d'accord. Et dans le mouvement MeToo, il y a des excès aussi, je trouve. Et ça engendre, enfin c'est une boîte de Pandore, quoi. C'est très très compliqué.
Dernière question d'actualité à ce sujet. Vous pensez quoi de la polémique autour du film de Polanski, J'accuse, qui a reçu 12 nominations au César?
Alors, moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Maintenant...
La polémique ne porte pas sur le film. La polémique porte sur le fait que Roman Polanski, avec le passé qui est le sien aux États-Unis, soit récompensé via son film.
Là aussi, évidemment, sujet délicat. Mais je, personnellement, je ne suis pas trop d'accord pour mélanger les choses. Quoi qu'ait fait Polanski dans le passé, dont je ne sais pas grand-chose d'ailleurs, ça n'enlève rien à son talent. Et donc, dans le métier qu'il fait, on peut reconnaître son talent. Voilà, les deux choses n'ont aucun rapport.
Vous votez au César?
Oui.
Vous avez eu le César de la meilleure bande-son pour Le Grand Bleu. Vous avez voté pour qui, cette fois-ci, cette saison? En musique, juste en musique.
Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu qui était nommé.
Ah, donc, vous n'avez pas encore voté?
J'ai voté au premier tour, déjà,
ouais.
Mais je n'ai pas encore voté pour le deuxième tour, non.
D'accord. Vous avez déjà voté pour vous-même? Ça sera ma dernière question.
Bien sûr. Tout le monde fait ça. Ceux qui vous disent l'inverse, ce sont des menteurs.
Merci beaucoup, Eric Serra. Je rappelle, les ciné-concerts Le Grand Bleu, tournée au mois de mars, il y aura Amiens, Brest, Caen, Rouen, Lille, Metz, Dijon, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Clermont, Nantes, Paris, Toulouse, Bordeaux, Chambéry, Genève, Bruxelles. Et aussi le coffret collector Le Grand Bleu, ça va sortir avec 3 vinyles, 2 CD et 1 DVD. Merci d'avoir été avec nous, merci Clément, merci Louise. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Michel Simès pour ses émissions Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, et ça ne sortira pas d'ici, c'est le nom de l'émission. Hein. Mmh. Et puis Walidia pour son spectacle Ensemble ou Rien. À demain, salut Céline Dacosta.
Salut Philippe Vandel.